Alors, tout d'abord, bonjour, hein, bienvenue malgré le froid. Tout le monde m'entend, je pense, hein, le micro est pas mal. Donc, lors de cet atelier qui va durer, oh, je pense, à peu près 2 heures, 1 heure et demie, le but c'est de vous montrer, bon, bien sûr, comment se faire connaître. Hein. Alors, je ne vais pas insister beaucoup sur la partie création, parce que c'est la partie technique, ce n'est pas ce qui est intéressant. Ce n'est pas vraiment. Ce qui vous aidera le plus, ce qui vous aidera le plus, c'est comment je génère du trafic, comment je crée du contenu, comment je choisis mes mots, etc., etc. Donc c'est ça en fait que j'ai choisi de mettre en avant dans cette présentation. Alors quand on parle de présentation, je vais quand même vous présenter aussi. Donc là, voilà, donc ça fait donc une quinzaine d'années que je travaille dans le marketing, e-marketing. J'ai une double vie, mais qui est honnête, hein, je vous rassure. Donc pendant la journée, j'ai évolué dans pas mal d'entreprises en tant que product manager, web marketeur, etc. Et en fait, la nuit, le week-end, le soir, quand j'ai un peu de temps, comme ce matin, je suis blogueur sur un certain nombre de sites. Alors j'en avais une quinzaine. Je me suis recentré sur un ou deux sites maximum parce que forcément, la concurrence s'est vraiment augmentée fortement au niveau du web. Et donc, il faut plus se disperser, il faut vraiment se concentrer sur un élément particulier ou un site internet ou une niche ou un segment, et donc c'est pour ça que je me suis recentré sur mon cœur de métier, hein, qui était le marketing. Et donc mon blog principal s'appelle conseilmarketing.com. Ça fait 10 ans que je le tiens maintenant. Donc c'était au début, c'était juste un petit projet. Je voulais monter une structure avec des amis, une start-up, et finalement la start-up n'a jamais vu le jour, mais le blog est resté. Parce que c'était un petit peu mon pense-bête, ce que je mettais en fait, ce que je pensais qu'il fallait faire, parce qu'à l'époque, il y a 10 ans, trouver des conseils sur le référencement, etc., c'était compliqué. Et après aussi, j'anime quelques sites de niche, hein, sites d'emploi, sites sur le CRM, génération de leads en fait, et l'efficacité perso, parce que c'était un petit peu mon dada à un moment donné. Alors, comme je vous le disais, l'objectif de cet atelier va être assez simple, hein, on va rester à peu près une quinzaine de minutes sur pourquoi un blog. Pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est pas intéressant? Parce qu'en fait, dans certains cas, un blog, ça aura peu d'intérêt. Après, on va rentrer sur le dur du sujet, 10 conseils pour lancer un blog. On parlera surtout de comment on va pouvoir créer du contenu, simplement, facilement, et quel type de contenu. Et ensuite, comment on va faire la promotion. Parce qu'en fait, créer du contenu, c'est bien, mais si on ne fait pas de promotion, ça ne sert à rien du tout. Vraiment, c'est très important de savoir ça. Et après, très rapidement, je ferai un petit focus sur une dizaine d'erreurs à ne pas commettre, hein, ça va être assez rapide à faire. Je suis un gros bavard, je parle beaucoup. Généralement, je vous ai prévu un programme qui est un peu dur, il y aura beaucoup de choses, mais je vous ai mis quand même des bonus, alors on n'aura pas le temps de les faire, ça je le sais déjà. Mais comme vous aurez le PowerPoint après, vous pourrez les lire. Je prévois toujours mes slides pour être exploitable. C'est-à-dire que c'est pas juste une image avec 3 mots, il y a du texte, donc en fait, et puis vous aurez l'enregistrement, donc vous serez quand même capable de retrouver les infos. Donc je dis toujours, n'hésitez pas à poser vos questions, hein, c'est important. Si un truc n'est pas clair, c'est tiens, ça me fait penser à quelque chose, etc., n'hésitez pas, on est peut-être une cinquantaine, mais on arrivera quand même à répondre à vos questions à vous, donc n'hésitez pas. Et moi, je vais vous poser une première question, c'est qui a déjà un blog? Ah, bah, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une petite dizaine sur 50. C'est pas mal. Là, on va voir quelques trucs et astuces. Et donc, je pense que tout le reste, vous voulez apprendre à créer un blog. Très bien. Alors, je dis toujours, je parle vite, je vous donne pas mal d'informations, ça va bouger pas mal. Le but, c'est pas que vous appreniez tout ce matin, hein. Le but, en fait, c'est de prendre quelques notes si vous voulez, c'est important. Moi, je note tout, en fait, sur PC parce que ça me permet de mémoriser. Et vous aurez les slides, donc vous pourrez après relire ça tranquillement. Notez un petit peu ce que vous pouvez prendre. En 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures, on n'aura pas le temps de tout voir. Mais au moins de vous dire, tiens, je pourrais faire ça pour mon business, ça je pourrais l'appliquer, ça je pourrais le faire, ah ouais, etc., etc. Et ensuite, le but c'est de vous lancer, de donner un petit peu l'impulsion. Parce que des fois on se dit, bah, tiens, c'est compliqué, j'y arriverai pas, ou je sais pas à quoi ça sert. Là, le but de ce matin, c'est de dire, ah tiens, moi je peux réfléchir à ça, je vais le faire, et après, tac, passer à l'action. Et vous verrez que c'est pas forcément le plus compliqué possible, c'est une affaire de temps. Voilà. Ça, c'était la partie intro. Maintenant, on va passer un petit peu à pourquoi un blog. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'avec l'émergence de Facebook, Twitter, YouTube, on voit beaucoup de gens qui disent voilà, tiens, c'est génial, etc., etc. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, le trafic général, en fait, sur le net, hein, sur Internet en général, voit en fait une baisse des recherches sur Google, par exemple. Donc, en fait, le blog qui est beaucoup basé sur la recherche sur Google voit, enfin, certains blogs voient leur trafic baisser. Moi, le mien, au contraire, il fait que croître d'année en année, parce qu'en fait, il faut être plus performant, il faut être différent, il faut bien se positionner, il faut bien choisir ses mots-clés, etc. Donc en fait, pourquoi un blog? Oui, il faut toujours un blog, parce qu'en fait, beaucoup de gens recherchent encore sur Internet, recherchent de l'information, recherchent de l'expertise, et c'est ça, un blog, ça sert à ça. Après, il y a d'autres outils, YouTube, Facebook, etc., qui peuvent être très bien, et je vous expliquerai en fait quelques cas de figure juste après. Alors la première chose, en fait, que je voulais préciser, c'est qu'un blog, c'est pas un business. Il y a plein de gens qui disent, ouais, je vais monter un blog, et puis je vais vendre à des clients. Non, le blog, c'est un outil, c'est un moyen de communication, comme peut l'être une page Facebook, comme peut l'être une chaîne YouTube, etc., etc. Et on peut réussir très bien sans blog, hein, si on est dans l'e-commerce, il faut juste créer un site e-commerce pour ensuite générer du trafic avec des plateformes, des places de marché, du Facebook Ads, du AdWords, etc., etc., de l'affiliation. On peut également, il y a plein de gens qui réussissent, par exemple dans le coaching, uniquement avec une chaîne YouTube, c'est possible, hein, pas de souci, on peut générer du trafic en CPC, avec AdWords, Facebook Ads, etc. Même je connais une personne qui est créatrice de robes, elle s'appelle la Fée Corsetée, c'est la femme d'un de mes amis. Lui, elle plutôt, la majorité de son business, en fait, elle le fait un petit peu sur Facebook parce qu'elle montre ses créations à ses amis, etc. Mais elle a quand même un blog derrière, un site qui lui permet de vendre. Voilà. Alors il faut dire aussi qu'un blog, c'est pas forcément uniquement un blog, un journal où on va raconter des trucs. Un blog, c'est un vrai site sur lequel on peut vendre. Moi, par exemple, j'ai pas de site, frédéric-cadevet.com. J'ai mon blog et mon blog, en fait, me sert à la fois pour générer du contenu, générer du trafic et vendre des trucs, vendre des formations, vendre des prestations, etc., etc. Voilà. Alors, le blog, comme je le disais, le but, c'est d'aller capter la recherche sur Google. C'est vraiment le but principal. Parce qu'en fait, Google aime les blogs parce que c'est du contenu de qualité, c'est des contenus souvent faits par des experts, c'est du contenu qui est frais, qui bouge régulièrement. Donc le premier but et le premier intérêt d'un blog, c'est je veux être visible dans le moteur de recherche de Google. Le deuxième point qui est important, c'est qu'en fait, généralement, on peut gérer une communauté sur Facebook, on peut gérer une communauté même sur YouTube, etc., etc., faire venir du monde, mais à un moment donné, acheter sur Facebook, c'est un peu compliqué. Et donc, à un moment donné, il faut toujours les renvoyer vers un site pour commander. Et puis aussi, si vous voulez garder en fait la maîtrise et pouvoir pousser de la communication auprès de vos prospects, il faut avoir leur email. Or, en fait, sur YouTube, sur Facebook, les gens, ils s'abonnent, ils likent, mais vous ne pouvez pas après leur envoyer des messages. Donc souvent, moi, j'ai l'habitude de dire que le blog, c'est le camp de base pour en fait mener des opérations sur les médias sociaux, faire une vidéo sur YouTube, faire en fait une publication sur Facebook. Là, par exemple, dans une semaine, je vais faire un Facebook Live avec un partenaire. On va se faire sur Facebook Live, mais le but après, c'est récupérer les adresses e-mail, faire une promotion, faire une campagne derrière. Donc Facebook, Twitter, etc., etc., ça a souvent pour but après d'aller ramener les contacts sur votre site et récupérer les coordonnées. Parce que l'email, c'est vraiment l'élément le plus important. C'est avec ça que vous allez pouvoir faire votre business. Et moi, je vois tous les jours, et c'est vraiment un truc qui est commun, c'est l'email reste l'outil numéro un pour faire vos promotions, l'outil numéro un pour vendre, parce que vous avez la maîtrise de la communication, vous envoyez, vous faites un push, etc. Publier un article de blog, publier un like, un Facebook, un statut Facebook, un événement sur Twitter, ça ne fera pas générer beaucoup de ventes parce qu'en fait les gens ne le voient pas forcément. Voilà. Alors comme je le disais auparavant, un blog peut très bien remplacer un site. Hein. Moi, j'ai pas de site. Alors comment lancer ou ne pas lancer un blog? Alors, pour tout simplement, c'est pour convaincre, pour montrer son expertise dès qu'on est coach, dès qu'on est freelance, dès qu'on est expert dans un domaine d'activité. Pour moi, c'est indispensable de monter un blog parce qu'en fait, ça montre son expertise. Et à chaque fois, je mets cette petite image, on dit Internet, nobody knows your dog. C'est-à-dire que vous soyez une petite entreprise ou une grosse entreprise, ben, on ne peut pas juger de ce qu'il y a derrière l'écran avec un site. Parce qu'un site, on peut très bien avoir un très beau site réalisé avec un thème qu'on a acheté pour 50 euros et rivaliser avec une très grosse boîte. Donc en fait, les gens voient surtout l'expertise, ils ne voient pas derrière tout entre guillemets, le back-office, la réalité. Et on le voit, moi je le vois régulièrement, il y a plein de gens qui me contactent, qui me disent voilà, je vous ai vu sur internet, vous avez l'air super bon, j'aimerais bien que vous m'accompagniez pour faire ceci, cela. Alors qu'il y a quelques années, il y a 10 ans ou un peu plus, les gens disaient ouais, je vais prendre une agence de com ou je vais prendre un cabinet de consultants, etc., etc. Maintenant, ils préfèrent directement parler à l'expert, à la personne qui connaît, et c'est pour ça en fait qu'il est important d'avoir un blog. Le deuxième point, je l'ai dit tout à l'heure, hein, les blogs sont naturellement optimisés pour le référencement. Et il existe plein de plugins. Des plugins, c'est des petites extensions qu'on ajoute en fait sur un site internet, hein, qui permettent de faire en sorte que le site soit mieux référencé, qu'on puisse capturer plus facilement les prospects, etc., etc. Donc en fait, c'est vraiment optimal. Donc également, quand on fait de la vente complexe, moi j'ai travaillé longtemps dans le domaine du CRM, là je travaille dans le domaine de la relation client. Et le blog, en fait, m'aide beaucoup, beaucoup, et à chaque fois, nous a aidé à générer des leads. Des leads, c'est des prospects. D'ailleurs, j'ai le terme anglo-saxon souvent. Donc, générer des prospects, c'est vraiment super, parce qu'en fait, c'est des gens qui sont en recherche d'informations d'abord, et ensuite, qui commandent. Donc, en fait, si vous êtes visible sur Google, tout simplement, les gens se disent, tiens, ah, ça a l'air sympa. Et je les interroge. Bon, en B2B également, parce qu'on est encore une fois dans ce domaine de vente qui ne se fait pas d'impulsion, hein, c'est une vente où on recherche d'abord. Quand on est freelance, quand on aime écrire aussi, hein, si on aime écrire, c'est vraiment l'outil qu'il faut utiliser. Il y a des artistes peintres, des gens comme ça que je connais, qui utilisent beaucoup le blog associé aux médias sociaux pour produire du contenu et être visible. Bien sûr, quand on est un expert dans son domaine, c'est également intéressant. Alors le contre, quand un blog n'est pas forcément intéressant, en particulier, moi je trouve dans le domaine de l'e-commerce, ce n'est pas prioritaire. Parce que dans l'e-commerce, il vaut mieux se concentrer sur générer du prospect via des campagnes, via des places de marché, etc., etc. Parce que c'est beaucoup plus rentable d'attirer quelqu'un et de vendre, parce que c'est de la vente d'impulsion. S'il y a quelqu'un qui veut acheter, je sais pas, une télécommande, bon, certes, il va peut-être regarder quelle est la meilleure télécommande qu'on peut trouver, mais il cherchera surtout à commander directement. Voilà. On essaie de vendre avant tout. Un blog, c'est sympa, mais bon, c'est pas forcément le plus adapté. Et quand vos clients, bah, sont pas sur le web, hein, si vous adressez parfois aux seniors qui ne recherchent pas forcément sur Internet, c'est pas intéressant. Les juniors, les ados, etc., ils sont un peu moins sur les blogs, ils sont un peu plus sur Facebook, donc ça peut être intéressant d'être plutôt sur Facebook, sachant comme je vous le disais, c'est complémentaire. On peut très bien attirer des gens sur Facebook et ensuite les emmener sur votre blog. Je donne un exemple, un cas pratique. Vous avez Facebook Ads, qui est un outil de génération de publicité, hein, qui est disponible par Facebook, qui est vraiment super performant et super intéressant, qui permet par exemple d'aller cibler les pages de vos concurrents. Moi je le fais régulièrement dans mon domaine, dans le domaine du CRM. Je vais cibler par exemple les pages de Salesforce, des gens comme ça, et je dis bah, tiens, téléchargez notre livre blanc, que faut-il savoir sur la relation client en 2017? Et donc je cible les gens qui aiment cette page-là, ou les gens qui sont directeurs commerciaux dans tel domaine, ou qui sont intéressés par tel produit, et je les emmène sur mon blog avec une page de capture. Donc en fait, les deux ne sont pas antagonistes. C'est pas tout Facebook ou tout un blog. Un blog est là pour capturer et faire de la conversion. Voilà, là c'était la petite intro. Un blog, c'est un outil avant tout. Alors le coût d'un blog. Alors je dirais que c'est un blog, ça ne coûte pas forcément très cher. C'est principalement du temps. Là, je vous ai détaillé de manière macro, hein, combien ça peut coûter. Alors, grosso modo, moi j'utilise OneOne, mais vous pouvez utiliser OVH, vous pouvez utiliser n'importe quel hébergeur. Il y en a deux en France, hein, grosso modo, c'est OneOne et OVH. Pour héberger un blog, ça coûte allez, une petite dizaine d'euros par mois. Vous allez sur OneOne.fr. Pour l'utilisation du moteur, il n'y a pour moi qu'un seul moteur qui est plus performant, c'est WordPress. Alors, en fait, vous avez, pour créer un blog, vous avez deux possibilités. Soit en fait, hein, vous achetez un hébergement, vous créez votre site dessus, et donc vous êtes entre guillemets l'administrateur de votre site. Deuxième possibilité, bah, vous ne vous sentez pas trop à l'aise, vous voulez tester sans pour autant trop vous impliquer dans la partie technique. À ce moment-là, en fait, vous pouvez utiliser des plateformes. Alors, c'est ce que j'appelle WordPress.com, Blogger.com. Ce sont des plateformes qui vous permettent d'avoir un site internet, enfin, un site internet, un blog, hein, ou un site internet. Pour moi, c'est un peu la même chose. Un blog clé en main en quelques minutes. C'est-à-dire que vous inscrivez, vous marquez le nom de votre blog, bam, votre site en 5 minutes, il est prêt. Alors, c'est intéressant pour tester. Moi, je le fais des fois avec certains de mes clients, ou même ma femme, quand elle est passionnée de tricot, je lui ai monté un blog sur le tricot, j'ai dit, bon, ok, avant de faire des trucs compliqués, on va créer un blog sur WordPress, tu vas tester un peu, t'écris des trucs, on va générer un peu de trafic. Si ça te plaît, après, je vais te créer un vrai site internet. Et forcément, elle a aimé, elle a commencé à partager. Là, je fais 1500 ou 2000 visites par jour. Et donc, bon, ça l'amuse un peu, publie de temps en temps des trucs. Mais elle ne veut pas monter un business, elle veut juste en fait partager un peu sa passion. Ça lui apporte une dizaine d'euros par jour. Voilà, c'est vraiment juste pour ça. Comment ? Par jour, 10 euros par jour que ça lui rapporte par mois, ça ne vaut pas le coup. Ah non, mais c'est le coût de la publicité qu'elle gagne tous les jours en publiant, je ne sais pas quoi, un ou deux articles par mois maximum, avec quelques photos. Voilà, c'est vraiment... oui, c'est AdWords, enfin c'est le réseau d'affichage publicitaire AdSense de Google AdWords. Donc, enfin là, vous inquiétez pas, c'est du détail, c'est parce que là c'est pour un blog passion, c'est pas pour un blog business. Un blog business, on n'est pas là pour vivre de la publicité, puisque la publicité n'est pas rentable quand on veut en vivre en fait. Sauf avoir un gros trafic. Donc, je vous disais au début, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous dites tiens, je sais pas si je vais y arriver ou pas, je vais pas investir trop de temps, vous pouvez créer comme ça pour quelques minutes un blog sur blogueur.com ou wordpress.com. Alors, je vous conseille plutôt wordpress.com parce qu'en fait, l'intérêt c'est que c'est la plateforme la mieux optimisée. Blogueur est un petit peu comme en retard. Et avec WordPress, si jamais vous passez après sur un blog pro, hein, vous aurez juste à récupérer votre base de données, vous aurez déjà toutes vos habitudes et tout ça. Voilà. Alors ça, c'est pour tester. Mais en fait, il faut vraiment vous dire que si vous faites cette solution-là, vous perdez, allez, on va dire 80%, enfin, allez, 70% de l'intérêt de tenir un blog. Parce qu'un blog, normalement, est fait soit pour être référencé lui-même, donc conseilmarketing.com, soit tout simplement pour pousser un site internet. Par exemple, votre site internet, c'est, je ne sais pas, acheter des voitures à courbevoie.com, et derrière, il faut mettre en fait un blog. Et en fait, le blog va propulser le site internet. C'est important de se dire que le blog est un peu comme dans une fusée, c'est un propulseur qui vous permet en fait d'être plus visible sur Google. Soit en fait votre blog est tout seul, donc c'est lui qui permet de générer du trafic, donc c'est une fusée comme la fusée Ariane. Soit en fait votre blog, c'est un petit peu comme les propulseurs pour les navettes spatiales américaines, c'est les deux trucs sur le côté qui font décoller le trafic. Et comment on fait décoller le trafic? On a son site principal et on crée le blog juste derrière. Parce que là, quand en fait on va créer un blog à part, ben en fait il va juste améliorer votre site à part. Il ne va pas faire améliorer votre site qui est séparé. Voilà. Donc comme je le disais, ça c'est gratuit, le WordPress. Hein. Si vous voulez passer après en hébergement WordPress, ça coûte je crois une petite centaine d'euros à l'année ou quelque chose comme ça. Un petit peu moins je pense. Le nom de domaine doit être une dizaine d'euros. Donc voilà. Donc, comme je le disais, le site, l'hébergement, si on veut, ça c'est gratuit. Le thème, vous avez en fait sur ThemeForest, c'est une plateforme en fait de thèmes WordPress, Blogger, etc., etc. Et vous pouvez acheter des designs de sites clés en main. C'est-à-dire que vous avez des jolis designs qui sont faits pour la construction de bâtiments, l'ingénierie, la mode, la vente, etc., etc. Vous allez dessus, vous choisissez votre thème, vous le téléchargez, vous le mettez et tac, vous avez un modèle. Alors bien sûr, il faut tout personnaliser, il faut tout écrire les textes, mais ça permet d'avoir un site qui est super moderne, super joli et clé en main. Alors petite précision, ThemeForest est donc une plateforme anglaise et donc il faut un WordPress en anglais. Voilà, c'est une petite précision si jamais vous voulez vous lancer, parce que si vous installez en fait un WordPress en français, il y a des bugs en fait qui arrivent, donc il faut toujours installer un WordPress en anglais. Même si vous n'êtes pas très fort en anglais, installez toujours un WordPress en anglais, c'est mon conseil, ça évitera d'avoir des petits bugs. Après, pour les images, il y a plein de sites où on peut avoir des images gratuites. Là, je vous ai mis Pixabay, par exemple. Ou alors, vous allez sur des sites où vous pouvez acheter des images à 1, 2, 3 euros, comme Fotolia, etc. Mais déjà, vous êtes quoi un petit peu nourrir votre site. Sachant que ce qui est le plus sympa, c'est quand même d'avoir des vraies images de vrais gens, donc de vos clients, de vos produits, de vous. C'est vraiment important de montrer la réalité, de montrer le côté humain. C'est ce qui fera la différence, pourquoi les gens commanderont chez vous plutôt que dans une autre boîte. Alors j'ai mis une installation un jour, alors bien sûr c'est quand on débute, hein, grosso modo, le temps d'installer, de personnaliser, de créer un peu de texte, etc., etc. Donc après bien sûr, ça peut durer 2 jours si on galère un peu, on n'est pas spécialiste en informatique, et bon bien sûr il y a plein de gens qui peuvent vous le faire. Donc ça c'était la partie installation, comme je disais, à peu près une journée, allez ça coûte allez, 150 euros, 200 euros à l'année, même pas, ouais, 150 euros à l'année. Ce qui est vraiment plus long, c'est véritablement l'entretien du blog. Comme je le disais, un blog c'est pas statique. Un blog en fait, on crée du contenu régulièrement, on choisit des mots-clés, on se positionne, etc., etc. Donc en fait, pour avoir des résultats, c'est quand même, pour moi je pense qu'à 4 heures par semaine, ça permet de donner vraiment du résultat. Autrement, c'est comme si on fait ça à la petite semaine, si on y passe une demi-heure par semaine, ça ne donnera pas grand-chose, parce que il y a la partie production, la partie promotion, et à moins de 4 heures, voilà, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Hein. C'est comme si vous faites du networking, comme si vous faites de la publicité, si vous ne prenez pas beaucoup de temps, vous n'aurez pas beaucoup de résultats. Voilà, c'est toujours pareil. Bien entendu, vous pouvez aussi faire appel à des freelances. Hein. Il y a plein de freelances community managers qui le font pour vous, qui animent, qui relaient, qui créent des articles, etc., etc. Et ça, on verra tout à l'heure. Donc, on peut sous-traiter quand même pas mal de choses sur le blog. Alors, un blog, c'est un peu comme un chien. Là, je vous ai mis un petit animal. C'est-à-dire que le problème, c'est pas de lancer un blog. C'est comme quand on prend un chien. Le problème, c'est pas d'aller à la SPA, de prendre le chien et de le ramener à la maison. C'est le sortir le matin, le sortir le soir, lui faire à manger, etc., etc. Bah, c'est exactement la même chose. Il faut s'en occuper. Et donc, bon, après, il y a plein de gens justement qui ont lancé des blogs et qui se sont dit, bon, allez, je ferai ça de temps en temps. Et puis, bon, pas forcément, le blog, quand on s'en occupe pas, il périclite, il disparaît. C'est comme une plante. Hein. Je préfère un petit chien, c'est plus joli. Donc, au lancement, c'est quand même bien d'avoir 5 bons articles pour que ce soit pas trop le désert. Alors, un bon article, on verra ça juste après. Et ensuite, un bon article par semaine sur votre blog ou ailleurs. Ça, c'est un bon métrique. D'avoir donc un fond un petit peu pour que les gens quand ils arrivent sur votre site internet ils disent pas c'est quoi ce truc là mais avoir quelques petits contenus sympas et se dire bon, une fois par semaine ben, je sors un article. Moi actuellement à mon rythme à moi pour vous donner un ordre d'idée j'écris à peu près 2 articles par semaine et plus un petit truc rapide avec du copier-coller que je fais le samedi je fais pas plus voilà ça sert à rien de faire un article tous les jours sauf on verra après, dans une optique de référencement naturel quand on veut booster son site. Je vous donnerai un exemple. Pour une entreprise qui faisait du CRM, je faisais un article tous les jours pendant 90 jours. Mais c'était une optique et je vous expliquerai comment on peut le faire. C'est pas si compliqué que ça. Ouais, il y a des astuces. Voilà, et justement, on y arrive. Hein, ces fameuses 10 astuces pour lancer un blog. Alors, voilà, je vous ai mis là. On va les détailler ensemble. Hein, hop. Alors le premier, et c'est plus important, c'est écrire du contenu pour ses lecteurs. Alors je vous ai mis ici à moi les 2 aspects, écrire du contenu de qualité pour les médias sociaux et les lecteurs. Et ensuite, on verra un deuxième aspect, c'est écrire du volume pour Google.
Avant de vous démarquer sur cette partie-là, quelle différence faites-vous entre un blog et une page pro Facebook?
Ah ben c'est totalement différent. Alors,
Parce que moi je vois pas la différence.
Si une page Facebook, vous ne possédez pas du tout le contenu, l'historique, il n'est pas référencé par Google, c'est vraiment... Ça n'a rien à voir. Vraiment, un blog, c'est du contenu que vous publiez qui est fait pour être visible par les moteurs de recherche de Google. C'est optimisé pour le référencement, vous pouvez capturer les emails, vous possédez tout le contenu, vous pouvez mettre un moteur de recherche, c'est votre maison et votre page Facebook, vous êtes chez Facebook. Si vous êtes visible ou pas avec les gens, vous ne savez pas. Les gens viennent vous voir ou pas, vous ne pouvez pas les contacter directement, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment une page, c'est plus un lieu d'échange avec votre communauté. Voilà, où vous discutez avec eux, c'est plus de la proximité. Moi, par exemple, là, je viens d'arriver dans une nouvelle société qui s'appelle Eloquent. Cette entreprise-là est spécialisée dans le B2B, dans les solutions CTI, etc., etc., etc. Et donc, eux, ils se disent, oh, on est dans le B2B, on n'a pas besoin de page Facebook, parce que de toute façon, on a 200 clients en France, et puis ils ne s'intéressent pas à nos actualités. Et donc, forcément, ils ne voient pas l'intérêt, parce que la page Facebook, c'est pour créer du relationnel, échanger, montrer un petit peu l'arrière de la boutique, humaniser un petit peu ces données-ci. Et bien sûr, c'est très bien, comme je disais, je parlais tout à l'heure de la fée corsetée, hein. Elle montre un petit peu ses créations, elle tague, elle voit un petit peu les robes, elle montre un petit peu comment elle les coud, elle parle un petit peu de sa vie, de son tour de France qu'elle a fait, etc., etc. Donc la page Facebook est plus là pour cet aspect proximité, etc. Tandis que le blog est plus là pour s'adresser à d'autres personnes. Pas forcément, c'est comme. Parce que sur Facebook, trouver votre page, je pense que c'est impossible. Enfin, je ne sais pas dans quelle activité vous êtes, mais les gens ne vont pas taper, tiens, je recherche votre activité sur Facebook. C'est les gens que vous connaissez. C'est pas la même chose. Mais c'est pas antagoniste. C'est pas antagoniste, hein. C'est-à-dire que moi, je suis en train de me battre avec le webmarketeur qui est actuellement dans cette boîte-là, pour laquelle je travaille, pour dire, mais non, mais il faut créer une page Facebook, même si tu es en B2B, une page Facebook, c'est pour humaniser ta marque, montrer l'arrière, communiquer, utiliser tous les salariés, toutes les personnes. Pour en fait relayer l'information. La page Facebook, c'est indispensable. Alors en fait, on parle beaucoup de plateformisation du web. C'est-à-dire que vous avez maintenant des silos où il y a en fait les différents prospects clients. Un silo, c'est-à-dire que par exemple, Facebook, ben, les gens sont sur Facebook, mais quand ils sont sur Facebook, ils ne vont pas aller sur Google. Il y a des gens qui cherchent sur Google, il y a des gens qui vont sur Facebook, il y a des gens qui sont sur Amazon, parce que quand on est e-commerçant, Amazon, c'est une plateforme, c'est un silo, c'est important. Si vous êtes dans les apps mobiles, un silo important, c'est le Google Play et l'Android Market, le Google Play et iTunes. C'est des silos. Donc on arrive beaucoup à des silos de données. LinkedIn, c'est un silo aussi. Vous pourrez me dire, tiens, moi j'ai un profil sur LinkedIn, moi j'en ai un, et j'utilise beaucoup ce profil-là pour générer du trafic. Mais c'est encore une fois un silo. Et la page, enfin mon profil sur LinkedIn et la page en fait sur LinkedIn, ça a des rôles, c'est des objectifs différents. Une page LinkedIn, c'est un principal objectif pour recruter, c'est surtout du recrutement, ça. On générera assez peu de trafic parce que c'est ses propres clients, etc. Le profil, en fait, moi, il me sert beaucoup à générer du trafic via mon site, mon blog, pour récupérer des prospects. C'est en fait un moyen de communiquer. Alors, écrire du contenu, donc comme je disais, il y a vraiment deux gros points, hein. Soit on écrit pour ses lecteurs, soit on écrit pour le référencement sur Google. Alors, donc les deux sont pas antagonistes, hein, et on verra juste après. Donc en fait, si vous voulez convaincre les gens, en fait, il faut écrire du bon contenu. Alors, il faut se dire aussi une chose que sur Google, 80, enfin, plutôt sur un site internet ou un blog, 80% du trafic, à peu près, on va dire 70, ouais, entre 70 et 80% du trafic vient de Google. C'est pour ça que c'est vraiment important, le trafic qui vient naturellement. Ah, je vais peut-être prendre un micro. Alors, oui, ah, c'est mieux. Donc 80% du trafic d'un site internet et d'un blog en particulier vient de Google. Sauf si vous êtes dans l'e-commerce. Et dans l'e-commerce, ben, forcément, c'est différent parce que votre trafic, il vient des places de marché, d'Amazon et des choses comme ça, des comparateurs de prix, etc. Mais quand vous êtes un site internet classique ou un blog, Google est indispensable parce qu'en fait, les gens, ils tapent des choses et forcément, ils arrivent sur votre site internet. Alors Google, en fait, reconnaît la pertinence d'une page. Alors, c'est. Comment? Ah, je me suis une question. Bon, Google reconnaît la pertinence d'une page. Alors, il y a un algorithme plus ou moins connu. Et je vous ai mis, en fait, là, grosso modo, les principaux éléments qui sont reconnus sur la pertinence d'une page. Alors, la pertinence d'une page, Google se dit, tiens, ah, ça, c'est intéressant. C'est les liens qui pointe vers cette page-là, s'il y a beaucoup de sites qui disent tiens, putain, c'est un super article, il faut y aller, ou sur les médias sociaux, il y a beaucoup de partages, C'est un indicateur. Alors, ça, tout ne veut pas dire. C'est pas parce qu'il y a eu 50 000 personnes qui ont tweeté que ça va dire oh, c'est super, cet article est super pertinent. Mais c'est un indicateur. Après, il y a tout ce qui est l'optimisation de la page. Et c'est pour ça qu'en fait, un blog avec la technologie WordPress dont je vous ai parlé, bah, permet en fait d'avoir un contenu qui sera optimisé. Mais c'est également le contenu. Et c'est ce que je t'ai mis ici, là, en encadré. Donc, avoir du contenu original, du contenu intéressant. Donc, en fait, Google reconnaît ça avec, par exemple, le temps passé sur une page, le taux de rebond. Si les gens ils viennent, ils repartent tout de suite. S'il reste une seconde dessus, bah, forcément, c'est pas pour eux. Pour Google, c'est un indicateur que la page n'est pas pertinente. Voilà. Et souvent, en fait, on voit bien que les articles qui marchent le mieux, c'est les articles où on a une référence. C'est-à-dire que si vous écrivez 200 mots, on ne peut pas être pertinent sur une expression, sur un mot-clé en 200 mots. Moi, je le vois. En 200 mots, on effleure un sujet. Si on veut vraiment aller à fond sur un sujet, il faut au moins écrire, on va dire, 1000 mots. Et c'est pour ça, en fait, que il faut pas se dire que si j'écris plein de petits articles avec trois petits trucs, ça n'ira pas. Parce que non seulement bah, les internautes vont pas rester, ils vont venir, ils vont regarder, ils vont dire oh, c'est nul, je repars. Et donc Google, il va le voir, il va voir que les gens vont sur votre site internet, ils repartent, ils reviennent. Donc en fait, c'est pas idéal. Donc il faut écrire du bon contenu, à la fois pour les lecteurs, mais également pour Google. Voilà. Mais les liens également, c'est important et c'est ce qu'on verra un peu plus tard. Donc, écrire pour les internautes, qu'est-ce que c'est écrire un article de référence? Un article de référence, c'est un article en moi qui se place comme la référence dans le domaine. C'est ça, en fait, qu'on doit viser. Il faut se dire, waouh, je vais écrire un article qui va vraiment être top et je vais expliquer comment faire. Généralement, ce sont des articles intemporels, c'est-à-dire que, par exemple, comment acheter une voiture d'occasion ou des choses comme ça, si on vend des voitures. Donc c'est des articles en fait qui répondent aux questions que se posent les prospects avant d'acheter. Alors comment faire pour? J'ai des problèmes pour XXX pas cher ou acheter tout ça. Ça en fait c'est des trucs que se posent les internautes. Alors après là, ces dernières expressions là sont limites en fait pour l'optimisation du référencement. Ce qu'on verra après, écrire pour Google. Parce que là, en fait, on touche en fait au fait qu'on ne va pas vraiment écrire pour les internautes, mais on va essayer d'aller capter un trafic. Mais en tout cas, comment faire pour, j'ai des problèmes pour, j'ai mal au dos, ou j'ai ceci, ou enfin, on se pose en fait les questions que se posent vos prospects quand ils tapent dans Google. Un prospect, quand il cherche quelque chose, par exemple, créer un blog, quand il veut créer un blog, qu'est-ce qu'il fait? Il tape créer un blog, il tape lancer un blog, il tape ça. En fait, le but, c'est de faire le tour du sujet. Grosso modo, moi, j'estime que, grosso modo, avec 1000 mots, hein, 1500 mots, vous faites le tour d'un sujet. C'est 2 heures. Hein. Et là, c'est des articles qui marchent relativement bien. Alors, comme je le disais auparavant, faire du contenu, c'est bien. Mais si vous ne le mettez pas en avant, si vous n'en faites pas la promotion, ça ne sert à rien. Parce que Google, il ne va pas deviner que c'est bien. Vous mettez un contenu, si personne ne va dessus, ça sert à rien, parce que Google, il peut pas savoir que les gens sont restés 10 minutes sur votre truc, disant « Waouh, c'est génial, c'est exactement ce que je voulais. » Donc, il faut prendre en compte ça, que créer du contenu, c'est bien, le mettre en valeur, et justement, une page Facebook, Twitter, etc., ça permet de mettre en valeur, et je vous expliquerai un petit peu comment faire juste après. Alors, écrire pour le web. Alors, écrire pour le web, c'est pas la même chose que écrire dans un bouquin, ou d'écrire des notes, etc. Il y a un principe général, c'est celui de la pyramide inversée. C'est-à-dire qu'au début, on a une accroche, c'est grosso modo le titre. Alors, une accroche qui peut être faite pour les lecteurs, qui peut être faite aussi pour Google. Il y a des trucs, par exemple, méthode presque quasi légale, ou à la limite de légale, ou ça devrait être illégal, mais ça marche. Enfin, des choses un petit peu comme ça. Une astuce étonnante, 10 conseils vraiment incroyables. Les 5 conseils que j'aurais aimé avoir lorsque je me suis lancé dans le truc, 10 choses à surtout pas faire lorsqu'on veut faire ceci, etc., etc. Donc là, on va essayer d'écrire un petit truc un peu étonnant qui va intéresser le lecteur en disant waouh, ok, d'accord, les 10 erreurs à éviter quand on choisit son, je sais pas, sa voiture, etc. Donc on a une petite accroche, on a un résumé, Et là, on va dire, bah, dans cet article, je vais vous expliquer pourquoi il est important de faire ça, 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 et il est essentiel de faire ceci. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les 7 W, why, when, when, qui font en français, qui, quoi, où, quand, pourquoi, comment, combien, etc. Donc en fait, on répond à toutes ces questions-là, et avec cette trame-là, on est sûr en fait d'épuiser un sujet. Et à la fin, on arrive à la conclusion. Ben voilà, on a vu ensemble qu'il fallait faire ça, 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 ça. Si vous voulez en savoir plus, hop, je peux vous aider, etc. Donc l'appel à l'action, c'est super important, parce qu'on aura créé du contenu, et ici, en fait, ben, faut dire, ben, vous voulez avoir de l'aide, appelez-moi, ou faites ceci, cela. Alors bien entendu, vendre directement, c'est toujours très compliqué, et c'est pour ça, en fait, qu'on verra après que l'objectif, c'est un objectif, ce que j'appelle des petits pas ou des étapes. C'est-à-dire que vendre directement à un prospect qui vient sur votre site web, c'est très difficile. Donc votre objectif ne va pas être de vendre directement. C'est-à-dire que vous allez créer un contenu qui va attirer les gens sur votre site web. Ok, étape numéro 1. Et le sur votre site web, vous l'avez attiré avec une petite accroche, un petit contenu qui est sympa. Ok, étape 2. Étape 3, il arrive à la fin. Et là, est-ce qu'il est mûr à acheter? C'est pas sûr. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un appel à l'action en disant télécharger une checklist, récupérer un livre blanc, suivez un cours vidéo, je vous fais un audit gratuit, je vous fais ceci, cela. Et donc on récupère ces coordonnées, donc étape numéro 4, je pense. Et après, une fois que vous avez ces coordonnées, bam, on peut vendre. En fait, c'est important de penser à ça. Même quand vous faites une publicité sur Google ou sur Facebook Ads, généralement, vous aurez un petit peu de mal à vendre directement, à moins que vous soyez dans l'e-commerce, que vous soyez plus facile du produit d'impulsion. C'est beaucoup mieux d'aller récupérer les coordonnées et ensuite la vendre. Enfin, sauf si, comme je disais, il y a un besoin urgent, que la personne se dit waouh, c'est une occasion, je saute dessus, ou si c'est un truc qui est vraiment simple et qui ne nécessite pas de réflexion. Alors, donc, comme je disais, le titre, la problématique, tac. Bon, bien sûr, il faut bien sûr faire plein de détails, des structures, des appels à l'action, etc. etc. Alors, sur le web, les gens ne lisent pas, ils scannent. C'est important aussi de se dire ça. Donc en fait, je vous ai mis deux versions où on écrit du texte comme ça, et puis l'autre après où c'est quasiment le même texte, mais avec en fait des images, des vidéos, etc. Donc tout de suite, il faut soigner la forme, pour mettre des choses qui soient beaucoup plus lisibles, pour que ce soit rapide. Donc là, on a vu la première partie qui était écrire du contenu de qualité, hein, et comment on va le faire, qui va intéresser les lecteurs. Ils vont se dire, waouh, ce mec-là, il est vachement doué, ça m'intéresse, en plus, il me donne un truc gratos pour commencer, etc. Donc, bien sûr, on ne donne pas la solution quand on donne un truc gratuit, on donne le début de la solution, on donne une astuce, et ensuite, on va proposer la solution complète, hein, comme d'habitude. Là, maintenant, on va penser un petit peu aussi à Google et à générer du trafic. Alors en fait, comme je le disais, il faut penser à ce que tapent les internautes quand ils sont sur Internet. Hein. Donc tout simplement, se dire, ok, qu'est-ce que recherchent vos prospects sur Internet? Voilà, c'est tout ça. Par exemple, je ne sais pas, ils veulent acheter une voiture. C'est acheter une voiture, acheter une R5, c'est peut-être un peu vieux une R5. Acheter une Clio, je ne suis pas très voiture. À la voiture d'occasion, j'en sais rien, tous ces trucs-là. Et généralement, vous avez un site internet où vous dites ben, à propos, on est le garage à Courbevoie, ou on est casse automobile à Courbevoie, et forcément, les gens, ils cherchent peut-être pas casse automobile à Courbevoie ou le nom de votre entreprise. Puis il y a par contre, bien sûr, une petite zone qui est commune entre les deux. C'est par exemple voiture occasion Courbevoie, je dis ça n'importe quoi, mais. Donc en fait, il y a un certain nombre de chevauchements, et bien sûr, ce qui est pertinent, c'est ça. Après, cette partie qui est là, elle est quand même importante, hein, parce qu'en fait, cette partie qui est là, c'est là que vous allez présenter votre entreprise, vous expliquer comment vous faites, que des clients sont super contents, que vous avez des super tarifs, etc. Mais si vous voulez être visible sur Google, c'est cette partie-là qui est importante. Donc bien entendu, ce qu'il faut, c'est que cette partie-là, elle soit la plus large possible là-dessus, pour attirer le plus de monde. Quand les gens tapent un mot-clé, ils tombent sur votre site à vous. Voilà. Donc après, vous pouvez faire un petit audit, je vous montrerai comment faire après. Donc il y a un rappel qui est important, et ça n'est pas une évidence, mais ça ne l'est pas forcément. Il faut se dire que une page de votre site web, c'est une expression. C'est-à-dire que vous voulez être présent sur voiture d'occasion Courbevoie, il faut créer une page où vous dites comment choisir sa voiture, comment trouver une voiture d'occasion à Courbevoie. Et choisir une caisse d'occasion, c'est pas la même chose que choisir une page d'occasion. Si choisir une caisse d'occasion, c'est une expression que tapent beaucoup les gens, il faut créer une page pour choisir une caisse d'occasion. Voilà. C'est comme, par exemple, dans la paye, si vous regardez sur Internet, bulletin de paye et bulletin de paye, alors j'ai l'air de dire la même chose, mais je dis pas la même chose. Si je dis bulletin de paye, P-A-I-E, et bulletin de paye, P-A-Y-E, c'est totalement différent. Je crois que bulletin de paye, P-A-Y-E, c'est 30% du trafic de P-A-I-E. Donc en fait, si vous vendez, par exemple, des bulletins de paye, vous êtes comptable, si vous créez une page qui s'appelle « Comment faire des bulletins de paye » ou « Obtenir des bulletins de paye à Courbevoie », vous serez obligé de mettre « Bulletin de paye Courbevoie », P-A-I-E, et bulletin de paye, P-A-Y-E, Courbevoie. Donc c'est deux pages qui sont différentes, avec des contenus différents, parce que ce sont deux expressions différentes. Donc c'est important de se dire ça. Chaque page est positionnée pour un mot-clé. C'est simple. Quand vous avez compris ça, vous avez compris déjà pas mal de choses. Alors, comment on fait justement pour savoir sur quel mot-clé se positionner? Alors, Google nous aide un petit peu. Vous avez en fait Google AdWords, qui est l'outil en fait de publicité de Google. En fait, dedans, ils ont un petit outil qui s'appelle Keyword Planner, qui permet en fait de... ici, vous allez dans Outils, vous avez Keyword Planner, et puis vous tapez un mot-clé. Par exemple, là, je reviens sur mon bulletin de paye. Vous tapez bulletin de paye, et vous dites, ce qui est plus recherché, c'est bulletin de paye, P-A-I-E. Voilà, ensuite il y a créer des bulletins de paye, modèle de bulletin de paye, et il vous donne des idées de mots-clés. Voilà. Et là, en fait, quand on est plutôt sur du référencement, ben, on va se dire, tiens, je n'aurai pas le temps avec mes articles de qualité qu'on a vu précédemment, qui font 1000 à 1500 mots, qui durent 2 heures, je n'aurai pas le temps de me mettre sur toutes ces expressions parce que ça va être trop long, je vais y passer toute ma vie. Donc en fait, on va utiliser entre guillemets un raccourci, c'est-à-dire qu'on va créer du contenu qui est plus rapide, qui sera peut-être moins bien référencé, et qui sera moins bien référencé parce qu'il sera plus court, mais ça me permettra d'être présent sur ces expressions. Alors, je n'aurai pas forcément un trafic de malade, parce que forcément, ce n'est pas du contenu hyper intéressant. En 500 mots ou quelque chose comme ça, on ne peut pas faire un contenu qui soit de référence, mais on peut au moins se positionner. Alors, je vous ai donné tout à l'heure l'exemple. Je travaillais pour une société qui était d'origine belge, qui s'installait en France pour vendre du CRM. Et forcément, ils étaient très peu connus au niveau français. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé, en fait, pendant à peu près un jour par semaine, j'ai créé du contenu pour avoir un article par semaine sur chaque expression qui était importante dans le domaine. Alors, forcément, ça n'a pas généré un trafic de malade parce que c'est des petits contenus. Mais, en fait, ça permet d'être présent au moins sur ces mots-clés-là. Voilà. Oui.
Est-ce que ce contenu-là de mots-clés...
Alors en fait c'est tout. Comme je disais, c'est une page est égale à une expression. C'est-à-dire que dans le titre, par exemple, c'est comme je disais, faire un bulletin de paye. Ou faire un bulletin de paye, P-A-Y-E, P-A-I-E. Et dans l'intro, on dit dans cet article, vous allez découvrir comment réaliser simplement en 5 minutes un bulletin de paye. Et donc un bulletin de paye contient tel truc. Et si vous voulez de l'aide pour créer vos bulletins de paye, appelez-moi ou téléchargez ce modèle-là ou ce truc comme ça. Blablabla. Et ensuite, je vais faire un autre article avec le titre comment réussir ces bulletins de paye ou faire ces bulletins de paye. Avec PAYE cette fois, et dit non, c'est de créer un bulletin de paye n'est pas si compliqué que ça, je vais vous montrer en moins de 5 minutes chrono comment on peut faire son truc, blablabla.
On peut dire la même chose
de manière différente, parce que chaque contenu doit être unique. Si vous dupliquez du contenu qui existe déjà sur Internet, ça ne fonctionne pas. Parce qu'encore une fois, Google est là pour donner la bonne information. Si vous volez, vous prenez le contenu d'un autre site internet, il va dire « Attends, mais je le connais déjà ce truc-là, et le contenu il est déjà sur l'autre site internet. » Il y a bon, donc ça, c'est un contenu dupliqué, c'est pas le contenu original, donc ça ne m'intéresse pas, je ne le mets pas de côté. Et au contraire, le mec, il a quand même volé le contenu d'avant, donc je le pénalise, et il ne faut pas y aller. Voilà, donc, c'est comme ça que ça marche. Alors, un moyen de pouvoir justement créer ces petits contenus sans trop prendre de temps, c'est ce que j'appelle moi l'audit des contenus. Je vous disais il y a 2 secondes que j'y passais un jour par semaine et que je faisais un article tous les jours, 7 articles par semaine. Bah, c'était simple, c'est parce qu'en fait, j'ai fait un audit du contenu. Je suis allé dans le CRM de l'entreprise, j'ai été faire fouiller dans les disques durs, et j'ai trouvé par exemple des fiches produits où il y avait déjà du texte qui était tapé, mais qui n'était pas sur Google. C'est important que le texte ne doive pas être sur Google. Par exemple, il y avait des fiches papier, je les ai scannées, j'ai pris un logiciel d'OCR qui a permis de récupérer le texte, et bam, j'ai récupéré tout ce texte-là. Donc en fait, on va faire un audit et on va récupérer des choses. Par exemple, il y a aussi des appels d'offres. Des appels d'offres, vous avez créé du contenu spécifique, ben, j'ai pris ce contenu-là, hop, je l'ai mis dedans. Et je faisais également des présentations PowerPoint, vous avez fait quelques conférences, quelques trucs, etc. Des interviews qu'ils avaient faites également. Donc j'ai récupéré toutes ces choses-là. Il y a des mémoires de stage. Dedans, en fait, bon, le but, c'est pas de prendre la mémoire du stagiaire et de le copier-coller, mais il y a des morceaux qu'on peut mettre dedans. Et bien sûr, à chaque fois, il faut les optimiser. C'est-à-dire que, par exemple, dans les fiches produits, il parlait, c'était une boîte qui vendait un CRM qui s'appelait Efficis CRM. Il disait, bon, Efficis CRM permet de faire ça, 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 ça. Or, moi, mon objectif, c'était pas d'être positionné sur le mot-clé Efficis CRM, mais d'être mot-clé, par exemple, d'être présent sur le mot-clé Solution de CRM. Donc, je faisais un contrôle F dans Word et je faisais remplacer Efficis CRM par logiciel de CRM ou solution de CRM ou ceci, cela. Voilà. C'est comme ça en fait que sert l'outil. Après, éventuellement, si vous avez des checklists hein, dans pas mal de boîtes pour gérer des projets ou des choses comme ça, on a une checklist, on a des trames d'audit et ces contenus-là peuvent être utilisés soit pour du bonus, soit pour créer du contenu. Et puis également, moi c'est ce que je fais, des fois je fais des longues réponses par email, les gens me posent des questions. Je me dis bon, et pour pas perdre du temps, je copie-colle cette réponse-là et j'en fais un petit article qui sera positionné sur un mot-clé en particulier. Voilà, c'est quelques idées de vous dire que quand vous avez du contenu qui existe, vous pouvez le reprendre, tout simplement. C'est vraiment rapide à faire. Moi, je l'ai fait régulièrement là-dessus. Alors, ensuite, vous pouvez aussi espionner vos concurrents. Alors, en fait, c'est simple. Hein. Vous regardez un outil qui s'appelle SEMrush. C'est un outil qui est plutôt destiné aux agences web. C'est pas trop destiné, en fait, aux particuliers. Mais vous avez une version, en fait, gratuite, qui permet d'avoir un petit peu de résultats. Je crois qu'il permet d'avoir 5-10 résultats. Par exemple, là, j'ai pris le site ville-courbevoie.fr et en fait, il vous dit les mots-clés qui attirent le plus de trafic sur le site ville-courbevoie.fr, c'est Courbevoie. Donc, c'est mairie de Courbevoie, c'est piscine de Courbevoie, mairie de Courbevoie, ville de Courbevoie. Donc en fait, il vous dit quels sont les mots-clés qui génèrent le plus de trafic pour un site internet. Et moi, ça m'a servi. Par exemple, j'ai analysé quelques sites de mes concurrents. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui leur génère, eux, du trafic? Et donc, je me suis dit, tiens, il y a un mot-clé. Par exemple, un mot-clé qui c'était chart trafic. Ah ouais, chart trafic. Je voyais que la difficulté n'était pas énorme. Parce qu'en fait, il peut vous donner des informations sur la difficulté d'un mot-clé. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence ou pas? Et à ce moment-là, j'ai vu que la concurrence était relativement faible. Et donc, j'ai créé donc un article de référence, comme on disait tout à l'heure, un article comme ça, un bon article, pas un petit article de 500 mots, mais un vrai truc intéressant. Et donc j'ai réussi à capter un petit peu de ce trafic-là parce que j'étais totalement absent de ce mot-clé. Alors le 6 sur 10, écrire quand on n'a pas le temps ou qu'on n'aime pas écrire. Ça en fait c'est beaucoup de choses en fait qui arrivent, hein. On n'a pas de temps, on n'a pas envie, ou c'est pas notre passion, on n'est pas habitué, etc. Alors une première chose, c'est plus on écrit. Et je vois, au début, moi j'avais un petit peu de mal à écrire des contenus, puis finalement, quand on a l'habitude, après c'est comme un écrivain, comme un sportif, hein. On devient sportif des doigts et ça, on écrit très rapidement. Bon, tout le monde n'est pas des athlètes de l'écriture, donc en fait, un truc qui peut être fait, c'est ce que je fais là. C'est pour ça que je vous disais que je vais expliquer pourquoi j'enregistrais, c'est pas que pour que vous puissiez l'obtenir. C'est qu'en fait, moi j'utilise beaucoup les fichiers audio pour créer du contenu. C'est-à-dire qu'en fait, sur mon téléphone, ben, je prends des notes. J'utilise l'application de notes de mon téléphone. Et tout simplement, je mets une trame en fait de ce que je veux dire. Ensuite, je prends mon téléphone. Et puis quand je suis dans le métro, quand je suis dans la rue, etc. Et ben en fait, je dicte en fait ce que je veux dire. Donc en fait, comme là ici, ce truc 49 minutes là pour l'instant. Et ben en fait, je vais le faire retranscrire sous format de texte. Et comme ça en fait, je vais obtenir un article. Et donc, hop, après, vous pouvez le faire retranscrire par un stagiaire, par un rédacteur, etc. Alors, c'est très long à faire, c'est pour ça que moi, je ne le fais jamais moi-même. Parce qu'en fait, retranscrire un texte, grosso modo, c'est 2 à 3 fois le temps. C'est-à-dire que vous faites un petit enregistrement qui dure 5 minutes, ben vous avez au moins 15 minutes de travail pour après remettre en forme, réécrire, etc. C'est pour ça qu'il vaut mieux passer par quelqu'un qui est externe, en offshore, etc. Mais je l'ai fait également en entreprise. Alors, dans une grande boîte, c'est vraiment pertinent, parce qu'en fait, vous avez beaucoup de gens qui sont des experts dans un domaine d'activité et qui ont la connaissance et vous ne l'avez pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous, en fait, vous interrogiez les gens dans l'entreprise et après, vous faites un coup. On va changer de micro régulièrement. Donc après, l'autre solution, c'est bien sûr de passer par un community manager, hein, quelqu'un qui est non seul métier, qui est habitué à écrire et qui pourra faire tout ce que je vous ai montré auparavant, il le fera pour vous. Hein. Alors ça peut coûter entre 500 et 1000 euros par mois, hein, entre 50 et 80 articles, ça peut coûter un petit peu moins cher. En offshore ou des choses comme ça, avec des plateformes comme redacteur.com, ça coûte un peu plus cher, voilà, ou un peu moins cher, ça dépend ce que vous prenez, mais il faut toujours relire. Une personne n'aura jamais votre expertise. Ouais, mais c'est pas top. Personnellement, la reconnaissance vocale, si vous y arrivez. Pas de problème. Vous avez aussi Google Docs, hein, qui te fait très bien. J'ai tenté avec Google Docs. Vous allez sur Google Docs sur PC, vous parlez et il met du texte. Si ça marche, faites-le. Moi, ça marche. Ça marche pas parce que c'est un peu technique. Généralement, j'ai des mots-clés techniques et. Bon, après, je parle vite aussi, hein, je pense. Mais si ça marche, très bien. Vous avez également dans Google Docs online, vous avez la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un outil qui permet de faire de la dictée vocale. Alors, j'ai testé un peu. Alors, c'est vrai que je n'ai pas passé plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais c'est la même chose. Vraiment, si ça fonctionne, faites-le. Si vous obtenez un texte qui est correct, faites-le. Il n'y a pas de souci, moi je. Mon expérience à moi montre que ça ne marche pas trop. Mais si vous êtes dans une thématique qui est correcte, faites-le. Pas de problème. C'est vrai que je connais une personne, Yann Gourvenec, qui utilise beaucoup ça pour la dictée vocale. Et c'est vrai que comme vous, ça fait 5 ans parce qu'il y a des problèmes de poignet, en fait. Il ne peut plus taper au clavier comme avant. Et donc, il utilise beaucoup la dictée. Et c'est vrai qu'il en est assez content. Donc. Voilà, moi je préfère faire retranscrire, comme ça je fais ça tranquille. Et surtout, en fait, moi je le fais dans la rue, parce qu'en fait j'ai pas le temps. Et donc, en fait, j'envoie après un transcripteur qui m'envoie un texte clé en main. Et donc, c'est quand même plus sympa. Comment ? Ouais, bien sûr, comme je vous disais là, voilà, on sous-traite. Alors, numéro 7, aller chercher du trafic là où il se trouve. Alors, c'est important de se dire qu'un blog, en fait, au départ, ne va pas vous amener beaucoup de trafic. En fait, il y a un système de panier qui existe, et il faut vraiment être conscient de ça. Un blog, au départ, fera 5, 10 visites par jour, ensuite il en fera 30, ensuite il en fera 100, ensuite il en fera 200, 50, 300, ensuite il en fera 500, ensuite il y aura un palier à 1000, ensuite il y aura un palier à 2000, enfin 1500, 2000, ensuite il y aura un palier à 3-4 000, ensuite il y aura un palier à 5 000, ensuite il y aura un palier à 10 000, ensuite il y aura un palier à 12 000, ensuite il y aura un palier à 15-18 000.
Mais c'est monté comme ça jusqu'au ciel.
Alors en fait, plus vous créez de contenu, plus vous avez de pages, plus vous serez en fait référencé. Mais en fait, par exemple, moi, pendant un an, j'étais sur le palier des 12 000. Alors là, j'étais à 12 000 visiteurs par jour. Même si j'écrivais du contenu, même si je faisais du trafic, pas plus. Et là, depuis 6 mois, bam, j'ai passé un nouveau palier, je suis plutôt à entre 12 000 et 18 000, voilà, grosso modo. Donc en fait, il y a des paliers. Et ça, vous n'y pouvez rien, parce qu'en fait, c'est votre contenu, c'est l'attractivité de votre contenu. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont déçus par le blog, parce qu'ils se disent, tiens, j'ai créé un truc et j'ai que 30 visites par jour. 10 ans. Bah forcément, plus on a de contenu, mieux c'est. Et ensuite, bien sûr, il faut aller chercher le contenu. C'est pour ça, en fait, qu'il faut se dire où sont vos prospects. Et donc, par exemple, moi, pour attirer un petit peu de trafic et augmenter justement ma visibilité, bah, je vais sur d'autres sites. Par exemple, il y a un site qui s'appelle le Marketing.com qui propose en fait à des rédacteurs de venir écrire des articles chez eux. Donc, pas de souci. J'écris également sur le blog de Sparklane, qui est un blog sur le marketing B2B. J'écris à peu près une fois par mois dessus un article et hop, donc ça me permet de générer du trafic. Après, il y a plein de gens qui m'écrivent, qui me disent tiens, j'aimerais bien écrire un article sur ton blog. Et donc après, je suis très sélectif là-dessus parce que justement, je veux que de la qualité. À un moment donné, je faisais des contenus qui étaient de mauvaise qualité et ça a fait baisser l'attractivité de mon blog. Pas le référencement, mais l'attractivité. Les gens disaient ouais, non, mais t'écris plus des trucs intéressants. Donc il faut quand même faire attention à ça. Donc, où sont vos prospects? Est-ce qu'on peut publier sur des sites d'actualité? Est-ce qu'on peut payer également? Il y a pas mal de gens qui disent, bon, ok, j'aimerais bien être présent sur votre site, écrire un article, je suis prêt à payer pour ça. Je connais un site internet qui dit, bah, ok, je vous paye 100, 200, 300 € pour écrire un article, etc. Voilà. Alors, si vous tapez vos mots-clés, vous voyez ce qui sort hein, dans Google, et si les gens acceptent d'avoir un article de votre part sur leur site, bah, tant mieux. Pour vous, ça vous fait un lien, ça montre que vous avez un contenu de qualité, vous allez capter une partie du trafic aussi, parce que bah, les lecteurs de ce site-là vont voir que vous existez, etc. Alors, bien entendu, quand on fait ça, on ne fait pas de la promo, hein. Le but, ce n'est pas de dire mon produit est super génial, mais de montrer une expertise et ensuite de les attirer sur votre site web. C'est vraiment important de se dire ça. Il faut aller chercher le trafic là où il est, parce qu'au départ, vraiment, il n'y a pas de mystère. Pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, vous allez faire 30 visites par jour. Et vous allez peut-être avoir au bout de quelques mois 100 ou 200 ou 300, mais c'est comme ça. Et parce qu'il y a déjà des sites qui sont établis, qui sont bien référencés sur des mots-clés, parce que leurs articles sont pertinents, le contenu est pertinent, les internautes restent du temps dessus. Et pour capter et faire changer ça, il y a une inertie qui est importante. Donc il ne faut pas se dire, tiens, je lance mon blog, waouh, j'écris des super trucs, ça va être génial, les gens vont venir. Non, il faut du temps. Et c'est pour ça qu'il faut aller chercher du trafic là où il se trouve. Et je vous disais tout à l'heure, écrire un article une fois par semaine sur le blog, oui, mais c'est encore mieux d'aller écrire sur les blogs des autres ou sur les sites des autres ou faire une actualité. Et leur dire après, si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur mon site à moi, il y a aussi des infos sympas, et puis je capture vos emails, etc. Donc ça, c'est important. Voilà. Également aussi utiliser les influenceurs, comme je vous le disais, si vous vous contentez d'écrire pour vous, ben, ça ne marchera pas, parce qu'en fait, ben, vous ne serez pas reconnu, Google ne vous connaîtra pas, les internautes ne vous connaîtront pas. Donc souvent, en fait, des gens ont une communauté, c'est à vous de l'exploiter. Ils peuvent être quelqu'un qui a une grosse page Facebook, quelqu'un qui a un gros compte Twitter, quelqu'un qui a un gros compte YouTube, etc., etc., ou quelqu'un qui a un blog, etc., etc. Même, il y a des plateformes de curation, Scoopit, etc., des gens ont une plateforme, ils ont de l'audience. Donc le but, c'est d'aller capitaliser sur ces gens-là. Donc une des techniques alors, que j'utilise régulièrement, c'est l'interview d'experts. En fait, ben, c'est simple, hein. Vous utilisez des outils qui existent, hein, BuzzSumo, Social Bearing ou Twitter, vous tapez vos mots-clés dans Google, ils ont blog sur tel sujet, des experts dans des groupes Facebook, LinkedIn, ceux qui font déjà des interviews, comme j'ai des gens qui sont sur YouTube, des gens qui sont sur Scoopit, et vous essayez de repérer donc ces gens qui sont connus hein, et reconnus dans votre domaine d'activité. Et vous leur proposez une interview. Alors bien sûr, une interview face à face, vous n'êtes pas journaliste, donc forcément, ce n'est pas forcément évident. Donc la technique, elle est simple. Hein. Moi, c'est ce que j'ai utilisé plusieurs fois. C'est 5 questions par email. Voilà, j'apprécie beaucoup votre travail, je suis votre blog ou je suis vos vidéos, c'est vachement sympa, etc. etc. Ben, j'aimerais que vous répondiez à 5 questions. Alors, question numéro 1, est-ce que vous pourriez vous présenter? Numéro 2, quel est votre conseil numéro 1 que vous donneriez à un créateur d'entreprise ou à ceci, cela, blablabla. Ensuite, ben, vous mettez les réponses en forme, vous mettez un petit peu de valeur ajoutée. Et l'intérêt, en fait, c'est d'aller dire à l'influenceur, à la personne que vous interviewez, tiens, ça y est, ton interview en ligne, n'hésite pas à la relayer, c'est vachement intéressant. Et donc après, moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait là, dans un cas pratique, ben, pour cette boîte pour laquelle j'ai travaillé, belge, ben, j'ai interviewé 17 influenceurs dans le domaine du marketing B2B, parce que c'était notre cible. Et donc, en fait, ben, voilà, ça m'a fait un contenu qui était quand même relativement simple à créer. Et bien entendu, après, c'était mettre un peu en valeur. Vous voyez, là, j'ai mis des petites citations d'une des personnes etc. dedans pour que ça le valorise, parce que si c'est juste pour mettre du texte pas mis en forme, pas très joli, le mec il va jamais le relayer. Si vous le mettez en valeur comme ça, il se dit ah ouais, c'est vachement sympa, c'est vraiment bien, etc. etc. Donc en fait, moi c'est un petit livre blanc, une semaine, 200 téléchargements, voilà. Donc c'était d'abord les interviews, ensuite j'ai compilé toutes ces interviews.